travail a mis le sujet sur la table. Aux États-Unis, le débat est moins fort qu'en Europe, mais Abigail Disney, héritière du groupe Disney, avait estimé en 2019 que la rémunération du PDG...
Radio G. Radio-G.fr. Un point, c'est tout.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire sous-entendue,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit. Tout ça parce qu'il s'aime à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent des fonds, les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé.
Bonjour, amis auditeurs. C'est bien à une déambulation dans Paris que nous vous conduisons aujourd'hui avec l'ouvrage de Laurent Godet, Paris, mille vies. Cette déambulation commence par une rencontre troublante que l'auteur fait près de la gare Montparnasse. Un inconnu, une voix, presque une ombre, qui cependant devient une pressante invitation en bien des points semblables à celle que François Cheng évoque ici. Parfois, détaché de la multitude, un regard anxieux te sollicite. Tu restes quoi ? Avec l'autre, tous deux, vous entrez dans la commune solitude.
Je ne sais pas depuis combien de temps cette nuit m'attendait. Je suis sortie de la gare Montparnasse. Tout semblait normal. Les gens allaient, venaient, se croisaient avec indifférence. La ville était encore bruyante et peuplée. J'étais heureux de retrouver Paris. La lumière de juillet était douce. Le soleil venait de passer sous la ligne des toits et embrasait le haut des immeubles d'une dernière lueur chaude et rasante. J'ai laissé toute cette vie m'envahir et j'ai avancé. Je pensais encore, à cet instant, pouvoir me fondre dans la foule. C'est sur le parvis que j'ai entendu sa voix. Instinctivement, mon corps s'est raidi. J'ai senti que c'était à moi qu'il s'adressait. J'ai relevé la tête. Un homme était là, à une dizaine de mètres, et ne me quittait pas des yeux. J'ai accéléré le pas, pressé d'échapper à son regard. Je ne sais pas s'il attendait depuis longtemps la personne à laquelle il avait envie de destiner sa question, ou s'il la posait à chacun de ceux qui passaient. Mais il était là, torse nu, avec une veste en cuir, sale, dont il avait remonté les manches, pieds nus, la démarche traînante, le visage maigre. Il me regardait, avec sa barbe en broussaille, ses cheveux longs et sa voix répétaient
« Qui es-tu, toi ? Qui es-tu ?»
Il marchait étrangement, faisait des pas de côté avec nervosité. Le parvis de la gare s'est effacé en un instant. C'était comme s'il n'y avait plus que moi sous son regard.
« Qui es-tu ? Tu le sais, ça ?»
La question, c'est elle, je pense, qui m'a empêché de poursuivre mon chemin. Je me suis figé. Je l'ai laissé s'approcher, sans savoir ce qu'il adviendrait. Je crois que je l'ai reconnu. Au fond, c'est peut-être cela, cet homme, dépenaillé, hirsute, qui n'était pas agressif mais pressant, qui a levé la main au ciel, Et ce geste m'a soulagée parce que cela signifiait qu'il convoquait les astres à notre face à face, qu'il invitait les esprits et les ombres à écouter ma réponse, et que ce n'était donc pas un homme qui voulait arracher quelque chose à cette soirée, une pièce, une insulte, une bagarre, n'importe quoi pourvu que la nuit ne l'enveloppe avec ennui. Non, c'était autre chose. Il demandait aux étoiles d'écouter sa question. Cet homme, que je n'avais jamais vu, j'ai été tout à coup sûre de le reconnaître.
Et vous tous qui marchez, là, sans vous arrêter?
Il continuait, élargissait sa question, et c'était comme s'il desserrait son étreinte puisqu'il m'incluait dans un cercle plus large.
Qui vous regarde? Qui vous donne un nom?
Il parlait fort maintenant, tournait la tête à la cantonade en essayant d'accrocher quelques regards.
Vous n'avez pas de nom? Qui êtes-vous?
Je ne savais pas à cet instant ce qui allait me permettre de rompre ce face-à-face. Il n'était plus très loin, se rapprochait encore. Nous étions si proches l'un de l'autre qu'il pouvait me toucher du bout des doigts s'il le voulait. Mais c'est alors qu'il s'est produit le plus singulier. Il a fait encore un pas, puis deux, et il m'a traversé. Je veux dire qu'il m'a frôlé, épaule contre épaule, et a poursuivi son chemin comme si je m'étais trompée, comme si, pendant tout ce temps, il avait regardé un autre homme juste derrière moi.
« Qui es-tu, toi ?»
Il me tourne le dos maintenant et me laisse retourner à ma vie. Je retrouve le parvis de la gare autour de moi, les hommes et les femmes qui vont et viennent, indifférents à ce que je viens de vivre, et pourtant je ne peux plus bouger.
« Qui es-tu, toi ?»
Je n'arrive pas à me débarrasser de sa question. Je reprends lentement ma marche, mais c'est comme s'il continuait de me la poser. Et pourtant, il est parti. Cela n'a duré que quelques secondes. Nous n'avons été que deux hommes qui se croisent dans une ville immense, deux hommes au milieu de centaines de milliers de vies qui vont, viennent, s'agitent, parlent, rient, souffrent, espèrent. Il est parti en me donnant probablement la seule chose qu'il possédait, sa question. Et je réalise que jamais personne ne me l'avait posée, que jamais donc je n'ai eu à y répondre. Et c'est probablement ce qui m'a fait supposer que la réponse était évidente, qu'il suffisait d'énoncer son âge ou sa profession, d'avancer que l'on est marié ou pas, père ou pas, tous ces attributs qui nous définissent, alors que maintenant, soudain, en essayant de convoquer quelque chose en mon esprit, je prends conscience que je ne trouve rien. Ou plutôt trop, bien trop de choses, de souvenirs, de définitions possibles, superposables, et je me dis alors que la vie a passé. Oui, j'ai vécu, tant vécu déjà, malgré un âge qui n'est communément que celui du milieu de la vie, que le trouble s'empare de moi, et je sais qu'il faut que je m'y abandonne. Je sais que cet homme était un dieu de carrefour, né de mes voyages, un papa Legba de Port-au-Prince, ou le personnage peut-être de mes origines. Onisos le Furieux? Oui, c'est cela. C'est pour cela que je l'ai reconnu. Il en a tous les attributs. La violente beauté, la nudité souveraine et la crasse solaire. Onisos, je réentends sa voix. Celle que j'ai écrite en 10 jours il y a 20 ans sur les banquettes d'un café du boulevard du Montparnasse. Tu n'as pas besoin de prétexte pour venir t'asseoir à côté de moi. Ces sièges sont publics et personne ne peut prétendre avoir réservé cette place que tu convoites. Onisos, c'est peut-être lui, mais si c'est le cas, que vient-il m'annoncer? La jeunesse est là, aux terrasses des cafés du boulevard Edgar Quinet. Je la vois. Elle a envie de vivre plus vite, plus fort, de faire résonner l'instant avec fracas, et je ne suis plus tout à fait avec eux. Ils sont si nombreux, tous ces jeunes gens. J'ai longtemps été l'un d'eux, et j'aimais, moi aussi, me glisser dans les longues nuits de Paris, soirées de vin, de bière et de rire. Soirée d'irrévérence et de promesses que l'on se fait à soi et aux autres, de toujours garder grand appétit du monde. J'ai eu moi aussi cet âge-là, et nous avons dévoré ces années en nous léchant les doigts pour ne rien en perdre. Je les regarde. Rien n'a changé. Les mains se frôlent, les cigarettes se fument, il y a des rires un peu forcés, des éclats de voix, des œillades plus discrètes. Dans tout Paris, des milliers, des dizaines de milliers de jeunes gens discutent, trinquent et font joyeusement du bruit. Tant de vies sont là sous mes yeux, tant d'existences. Ceux venus de province, ceux qui sont en train de passer leurs examens, ceux qui hésitent, ont peur, viennent de tomber amoureux, cherchent un petit boulot pour l'été. Tous ces rêves de métier, de voyage, d'amour, toutes ces adresses échangées, ces messages envoyés, comme chaque fois pour faire vibrer la vie. Je les contemple, mais je suis déjà ailleurs, et eux ne me voient plus. Peut-être est-il temps de m'éloigner et de tout saluer pour la dernière fois. J'ai le sentiment que quelque chose gronde et m'appelle. Quelque chose que je ne vois pas encore mais qui pousse. La foule continue d'aller et venir, mais dans le creux de ce qui est apparent, je sens les rues vivre. Cela bruisse et gonfle. Tout continue en surface, mais j'ai la sensation étrange de me décoller de la vie et du jour. Comme si je m'éloignais du monde et de son agitation. L'homme du parvis n'a pas disparu. Il est devant moi, un peu plus loin. On dirait qu'il m'attend. C'est à cet instant que je comprends que cette rencontre n'est pas un hasard et que cet homme n'est pas un égaré. C'est une invitation. L'après-midi s'achève, mais quelque chose commence. Tous les bruits de la ville s'estompent autour de moi. Je suis loin, touchée par une autre rumeur qui croît et m'envahit. Je sens qu'il faut la laisser monter et accepter de m'enfoncer dans cette nuit nouvelle. Oui, que ceux qui grondent prennent maintenant toute la place. L'homme du parvis m'attend. Je le regarde et une idée étrange s'impose à moi. Et s'il n'était pas d'ici, pas de notre temps? S'il venait de plus loin, connaissait Paris depuis plus longtemps? C'est le marcheur. Oui, c'est cela, j'en suis certain. Celui qui arpente les rues et les époques. Il a tout traversé et s'est débarrassé de son âge. Mais pourquoi me veut-il avec lui? Qu'attend-il de moi? Tant de vies sont passées devant lui, tant d'existences qui se sont pressées, puis ont disparu pour faire place à d'autres. Les époques ne le contraignent pas. Il les enjambe ou les laisse simplement le traverser. À moins qu'il ne les voie toutes en même temps, superposées les unes aux autres. Est-ce que je deviens fou? Je n'entends presque plus la rumeur des terrasses. Elle est remplacée par une musique qui résonne mon esprit, lointaine d'abord, puis de plus en plus forte. Au début, ce ne sont que quelques notes timides, puis des coups de violon plus forts, secs et nerveux. Je reconnais cet air, ses Saint-Saëns et sa danse macabre. Il m'appelle. Il est enterré ici, à quelques centaines de mètres, de l'autre côté des hauts murs du cimetière de Montparnasse. Les morts sont couchés côte à côte, et le temps n'a plus d'importance. Là-bas, c'est fouillis d'époque et grand empilement des siècles. Tout se mêle. Les morts se côtoient. C'est peut-être cela qui naît en cette nuit. La disparition des cloisons et le grand réveil de tout ce qui avait vécu. Saint-Saëns joue. Je l'entends de plus en plus nettement. Il me presse de dire adieu à la jeunesse. La sarabande commence. Et je sens bien qu'il n'est plus possible de m'y soustraire.
Avec véhémence et m'interdit toute hésitation, comme s'il sentait ma réticence et voulait la forcer.
Allez.
Est-ce bien à moi qu'il parle?
Aux morts.
Je sens que oui, et je ne peux que le suivre. Voyant que j'obtempère, il reprend immédiatement sa marche. De quelle mort parle-t-il? J'ai la sensation que je ne suis plus ce que je croyais être, que j'ai une fonction dont j'ignore tout, mais que lui, peut-être, a reconnu en moi. Et pourtant, malgré mes doutes et mes craintes, je suis aimantée. Il faut suivre l'ombre jusqu'à comprendre ce qu'elle est et ce qu'elle veut. La nuit se dilate, tout est à la fois plus ample et plus précis. C'est là que je remarque pour la première fois la sciure sur le trottoir entre lui et moi, comme si elle tombait de ses poches ou comme s'il la suivait parce qu'elle lui indique le chemin. Cela me glace. Une longue traînée de sueur ocre. Il n'y a plus de doute.
Au mort,
c'est bien là que nous allons, à l'endroit de la chute. Nous nous engouffrons dans la rue Émile Richard, longue comme un exil et toujours battue par un vent pénétrant. Cette rue étroite qui passe entre les deux parties du cimetière Montparnasse, bordée de platanes, m'a toujours donné l'impression de séparer deux mondes. Aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. Je replonge dans le lointain. Ma mémoire remue, s'agite, sent bien que je vais au-devant de ma douleur. La rue Liancourt m'attend, avec son nid de souvenirs agglutinés comme des mouches sur une dépouille. Comment l'ombre sait-elle que cette rue fait partie de ma vie, qu'un peu de moi est mort ici? Elle continue d'avancer, et sur le trottoir, il y a toujours ce mince filet de sueur ocre. J'ai l'impression de suivre un prêtre vaudou qui renverse du rhum sur le sol pour ouvrir un chemin. Arrivé au croisement de la rue Gassendi et de la rue Liancourt, nous tournons à gauche et, malgré mes réticences, je revois tout. Je pense alors au Fama Dihana, cette cérémonie du retournement des morts à Madagascar, durant laquelle les vivants déterrent leurs défunts pour nettoyer leurs os, changer leurs linceuls, leur faire parcourir à nouveau le monde sur leurs épaules, au milieu des chants et des cris, puis les remettre en terre. Est-ce cela que l'on attend de moi, que je retourne mes morts? L'ombre m'invite à la tombe pour que je retrouve le passé, le serre dans mes bras, le presse sur mes lèvres, l'anime de mes mots, le fasse vivre, puis le repose doucement. Est-ce cela, aux morts, pour que tout revive? Alors il faut parler.
Parle,
me crie l'ombre.
Parle,
et je le fais. Mon père est là, paisible, en son dernier jour, dans son bureau du sixième étage. Au moment où je dis les choses, elles apparaissent. Je le revois. Parle. Il faut sortir le cercueil, puis l'ouvrir avec les mains ou les mots. Peu importe. Parle. Tout complote pour qu'aujourd'hui soit le jour de sa mort, mais il ne le sait pas encore. L'instant de la chute approche. Rien ne peut l'empêcher. C'est la convergence du malheur qui exclut tous les autres possibles, tout ce qui pourrait venir au secours d'un destin. Mon père pourrait décider de ne pas aller à son bureau, de rester chez lui. Tout pourrait être différent de mille façons, mille variations. Mais non, le malheur a faim. Alors mon père fait tout ce qui va le conduire à sa perte. Il se rend à son bureau, travaille sur un article, termine un paragraphe qu'il achève par ces mots « tableau vivant ». Ce qui signifie que « vivant » aura été le dernier mot écrit par sa main. Et cela me tord le cœur à chaque fois que j'y pense. Parle, continue. Il faut dérouler les minutes les unes après les autres. Alors je le fais, je continue et je dis que mon père décide de faire une pause. Il doit penser que c'est le moment de régler ce problème de volet sur le balcon. Et là encore, il y a mille autres possibilités. Continuer à écrire, descendre dans la rue pour boire un café, téléphoner à un ami, ouvrir un livre, toute autre chose qui l'aurait sauvé. Mais non, la mort a faim. Il va prendre un marteau, déplie l'escabeau. La chute attend, impatiente. Elle sent que c'est pour bientôt. Parle. Il monte sur l'escabeau, là, sur ce tout petit balcon au sixième étage de la rue Liancourt. Il est très au-dessus du garde-corps. Et déjà, c'est une erreur manifeste d'installer un escabeau sur un balcon aussi étroit. Mais une fois que les choses sont arrivées, à relire l'enchaînement qui mène à leur triste conclusion, il est toujours évident que cela pouvait ne pas être, qu'il était si simple d'être plus prudent, de voir le danger, de le nommer, de l'écarter, mais rien n'y fait. Mon père monte sur l'escabeau. La chute sait que c'est imminent, qu'elle n'a plus que quelques secondes à attendre. Il est perché sur les dernières marches et peut-être regarde-t-il en bas une fraction de seconde. Jamais il n'a eu le vertige et c'est cela qui le tue ce jour-là, car il n'a pas la prudence de la peur. Et pourtant, il racontait avoir été assailli durant toute son enfance par le même cauchemar récurrent. Il marchait sur le viaduc de Chaumont, sa ville natale, il sentait qu'il allait tomber, voyait le moment approcher, et au lieu de rebrousser chemin, au lieu de redoubler de prudence, il continuait à avancer et invariablement, il tombait. La chute déjà était en lui. Est-il possible que ce soit l'empreinte de son destin déposée dans l'enfant qu'il était, comme une vieille prophétie grecque que l'on croit déjouée et qui se présente implacable ?
Tu mourras en tombant.
La chute approche. Parle encore. Mille gestes minuscules pourraient le sauver. Un appui plus sûr, le réflexe d'une main qui s'agrippe à la rambarde, sauter sur le balcon plutôt que de basculer dans le vide. Mais non, il tombe. Continue. Il y a encore à dire. Il faut sortir le squelette de son linceul, le porter sur son épaule, chanter et danser tout le long du chemin. Sait-il qu'il tombe, qu'il ne se rattrapera pas, ne reverra plus jamais sa femme et ses enfants? Sait-il que la vie s'arrête là, dans ces secondes longues qui le séparent du trottoir de la rue Liancourt? Toute une vie s'achève avec la brutalité du malheur et l'atroce stupidité de l'accident. En quelques secondes, la chute l'emmène et le perd. Je dis tout, je revois tout. Je suis sur le trottoir où il est tombé et je repense à ce vers de Franck Étienne qui me hante. Que ta chute devienne ton cheval pour continuer le voyage. Mais le cheval n'est pas venu, ne l'a sauvé de rien. À moins qu'il ne l'ait chevauché justement, pour partir et disparaître, continuer le voyage autrement, loin de nous et de toute la vie qu'il devait mener avec nous. La mauvaise heure l'a pris. À moins que ce ne soit cette vieille prophétie d'enfant qu'il portait au fond de lui depuis sa naissance à Chaumont. Tu mourras en tombant, inscrite en lui comme une identité. Et puis, la chute finit par s'achever avec le bruit effrayant d'une vie qui se fracasse contre le pavé. Tout le reste ensuite, l'inquiétude, l'agitation des vivants, ne peut que mener à l'endroit de l'impact où il ne reste qu'un tas de sueur rouge. La sueur, je la revois. Est-ce l'ombre devant moi qui en a répandu sur le trottoir ou est-ce ma mémoire qui joue avec mon esprit en superposant deux temps différents? Tout m'habite à nouveau. La béance de celui qui perd en quelques secondes un des visages aimés de sa vie, la colère face à ces secondes qui se sont agencées avec la minutie du malheur. Le hasard a eu envie d'être inéluctable et il est devenu malchance. C'est arrivé. Tout aurait pu se passer autrement, prendre une autre voie, mais c'est arrivé. Voilà, j'ai parlé. Mon père est là à nouveau. J'ai tout dit. Et il saigne sur ce trottoir, joue collé au sol, se vidant de son sang sur l'asphalte de Paris.
Ô mort, allez !
L'ombre me sort de mon immobilité. J'ai tout dit et je suis épuisée. Je voudrais partir maintenant, mais je pense que ça ne suffit pas. Rien n'est fini. Je ne porte pas mon père sur les épaules, mais il est là, en mon esprit, sur mes lèvres, et je l'emmène. Il faut danser, crier, le faire revenir dans les rues de Paris avant de le déposer à nouveau. Est-ce cela que l'ombre attend de moi? Pourquoi veille-t-elle tant à ce que je m'acquitte de cette tâche? Les morts appellent et l'ombre les entend. Est-ce là pour nous rappeler que les vibrations invisibles traversent nos existences? Ce n'est que le début. Ce qui vient est plus vaste. Un voyage commence dans cette nuit et peut-être fallait-il simplement que je prenne appui sur mon père. Je sens la pousser à nouveau. Alors, entre mes dents serrées, je m'entends dire avec un ton de fièvre « Et maintenant, qu'apparaisse tout ce qui gronde. » » La ville s'est vidée d'un coup. Arrivé du daguerre, je m'en aperçois. Il n'y a plus de passants. Les rues ne sont plus que de longues perspectives fuyantes et silencieuses. Où sont les hommes? Que se passe-t-il? Je deviens fou? M'ont-ils laissé seul? Plus de voitures sur l'avenue du général Leclerc, plus de foule pressée. Les bruits quotidiens qui font d'ordinaire la voix des villes se sont éteints. Est-ce que tout est déserté? Ou est-ce moi qui suis passé de l'autre côté du monde? Je ne sais pas où je vais. J'ai le sentiment que cela n'a pas d'importance, que l'essentiel est de marcher et laisser Paris m'envahir. Je traverse la place d'Enfer Rochereau comme je l'ai fait des milliers de fois dans ma vie, m'apprêtant à descendre en direction du boulevard Saint-Michel. À ma gauche, je dépasse le bâtiment qui fut, pendant l'occupation, le siège secret de la résistance. Et cela me semble plus vrai, plus dense que tout ce qui m'entoure. Je sens la vibration sous mes pieds. Ici, des hommes se sont cachés. Ils étaient là, en sous-sol, autour de Roll Tanguy, préparant patiemment l'insurrection, tandis que l'occupant battait le pavé. Ils complotaient sous la terre. Ils attendaient leur heure. Je les sens. L'air est doux. Je prends le temps de penser à eux. Est-ce que toutes ces scènes passées vont vivre à nouveau si je les laisse se déployer en moi? De quelle nature sera cette vie? Je n'ai pas de réponse à ces questions, mais je sens que c'est à cela qu'il faut s'ouvrir. J'ai cru que le retournement des morts ne concernait que mon père, mais c'est toute une ville qui m'appelle. Il faut marcher, aller d'un point à un autre, et me laisser envahir par les ombres qui réclament d'être pensées et dites. Leur évocation est la seule consolation. Elles viennent, je le sens. À chaque pas que je fais, les images affluent, les époques se chevauchent. C'est comme si elles attendaient quelqu'un depuis longtemps. Venez, venez! Tout se mêle. À Port-Royal, je pense au bal Bullier qui faisait danser tout Montparnasse, mais aussi à Rilke qui arpentait inlassablement le boulevard en ne voyant partout qu'un peuple d'aliénés. Venez, Paris s'est vidé d'un coup pour vous laisser toute la place. Venez, le maréchal Ney continue, sabre au clair, à vouloir allonger la longue liste de ses victoires malgré son immobilité de statue. Venez. Est-ce cela qui s'est ouvert durant cette nuit, les cloisons du temps? Je poursuis et descends doucement vers la Seine et soudain, je m'arrête. La première plaque apparaît. Je la contemple et je lis « Ici est tombé le 25 août 1944 le soldat Révert Jean de la division Leclerc. » Je ne bouge plus. Tout est calme et silencieux autour de moi. Je regarde ce trottoir et j'entends les coups de feu qui ont claqué durant ces heures de combat, là où je marche. Les hommes se sont effondrés. 10 mètres plus loin, une autre plaque indique la mort du lieutenant Martinet, le même jour. Ont-ils été soufflés par la même grenade? Tués par la même rafale? Je vois la colonne avancer sur l'avenue, puis s'immobiliser, prise sous les tirs nourris de l'ennemi. Des hommes sont morts en une seconde. Ceux qui les entouraient ont instinctivement rentré la tête dans les épaules, mais pour celui que la balle venait de transpercer, c'était déjà la plainte. Le sang qui coule. Et la vue qui se brouille. On a appelé en hurlant des brancards qui ne venaient pas ou pas assez vite. On s'est replié pour se mettre à l'abri. Les plus aguerris ont cherché à voir d'où provenaient les tirs, mais tout était confus. J'entends les ordres, les cris, le sifflement des balles. J'entends Paris qui a faim de liberté, mais avance à pas lents. Chaque croisement est un piège. Chaque course, chaque traversée de boulevard à découvert est un dé jeté pour la vie. Tout renaît par le pouvoir des mots. Depuis des jours, les jeunes gens scrutent le ciel avec impatience. La chaleur écrasante les empêche de dormir. Quelque chose attend dans l'air, disent-ils, quelque chose qui gonfle et ne va pas tarder à craquer. Ils essaient de ne pas laisser voir leur impatience à l'occupant. Ils font mine de suivre le cours de leur vie normale. Cela fait des années qu'ils ont appris à ne rien dire, à baisser la tête lorsqu'ils passent devant un officier allemand pour ne rien laisser paraître. Cela fait des années qu'ils attendent. Mais bientôt, tout va craquer. Il n'y a plus de doute. Les Allemands sentent que ce silence dans les rues n'en est pas un, qu'il est faux, et cela les inquiète. Alors ils donnent l'ordre de désarmer certains commissariats, sans se rendre compte que c'est ce geste qui précipite tout. Ils viennent de provoquer la colère qui mènera au grand craquement. Dès le lendemain, c'est la grève générale. Paris se vide pour offrir à l'occupant un visage lisse de refus. Les rideaux de fer sont tirés, il n'y a plus personne dans les rues. Les jeunes gens, encore, parfois, descendent à vélo les grandes avenues, ivres de pouvoir le faire à toute vitesse. Je les vois, Mais ils sont peu nombreux car c'est dangereux. Tout est dangereux. Oui, je le sens. Paris retient son souffle, devinant que l'histoire va avancer d'un coup. Que tout va s'accélérer, ce qui veut dire sang, cri, vie perdue, course dans les rues, ce qui veut dire urgence et inattendue. Comme toujours lorsque l'histoire se réveille. Il faudra faire vite, avoir de la chance, garder son sang-froid. Tous les jeunes gens qui sont dans les comités de résistance ont hâte, ont peur, regardent le ciel, attendent des nouvelles, ont du mal à s'endormir, craignent de ne pas être à la hauteur. Se demandent ce qui sera demain, ce qui ne sera plus. Et la réponse court finalement de rue en rue. Le 19 août, à 7h du matin, se répandant partout. Ce qui sera, c'est l'affrontement. 2000 policiers français se regroupent sur le parvis de Notre-Dame et entrent dans la préfecture. Ils ouvrent la porte, traversent la cour, montent l'escalier 4 à 4 et prennent possession des lieux. 2000 policiers qui hissent le drapeau français sur le toit et donnent le départ d'une accélération qui va se répandre partout. Alors, les jeunes gens qui attendaient leur heure comprennent que le jour qui vient de se lever est celui qu'ils espéraient. C'est maintenant. Il n'est plus question d'avoir peur, de réfléchir ou d'hésiter, c'est maintenant. On se bat, ça y est, j'en vois la trace sur les murs du boulevard Saint-Michel. Les armes ne sont pas nombreuses, mais elles circulent de main en main. Paris reprend possession des rues. On montre du doigt les postes tenus par les Allemands. On informe les allées et venues de chars ennemis. On dresse des barricades. Coup de feu, explosion. Paris gronde et sursaute. Tout s'agite et court. On s'appelle d'un trottoir à l'autre. La jeunesse est à son affaire. Elle a envie de pousser toujours plus fort pour faire tomber l'ennemi. Je descends le boulevard Saint-Michel, je ne vois plus rien d'autre que cette agitation des combats. Je laisse glisser ma main sur les impacts du mur de l'école des mines et c'est comme de toucher du bout des doigts ces journées d'été où on espère la libération, où on court, plié en deux pour offrir moins de prise à l'œil des tireurs. Il fait chaud. Les jeunes gens sont en marcel ou en bras de chemise avec leur fusil à l'épaule. Ça leur donne des airs crânes. C'est maintenant que tout se joue. On échange des coups de feu d'un bâtiment à l'autre, d'un trottoir à l'autre. La division Leclerc est arrivée. Elle roule de la porte d'Orléans à la Seine, mais le jardin du Luxembourg résiste. Les Allemands seront retranchés dans le palais du Sénat et aux abords des grilles du jardin. Les accrochages sont violents. Je les entends. Ils sont si près. Ici est tombé le spahi Pierre Bounin de la division Leclerc. Quelques mètres plus loin, c'est Jean Montvalier Boulogne, mort à 24 ans. Je vois son nom sur le mur de l'école des mines. Et plus loin encore, sur le trottoir d'en face, André Lauzet, qui n'avait que 20 ans, et Jean Bachelet, jeune FFI de 33 ans. Ils sont 6, tous plus jeunes que l'homme que je suis aujourd'hui. Tous morts le même jour sur ce tronçon de 400 mètres d'avenue que je ne mets que quelques minutes à parcourir. Chaque pas était une victoire sur le sang en ce jour de combat et la rue Soufflot devait sembler bien lointaine. Est-ce que eux aussi attendent de moi que je dise leur nom et les retourne en leur mort, que je les fasse remonter au milieu des vivants pour prendre soin de ce qu'ils furent? Est-ce que la consolation du monde exige l'attention des vivants ou disparus? Les Allemands tiennent encore, ici et là, au Majestic, au Sénat. Tout n'est que course et combat, ordre crié, rue vide, des silhouettes rapides, Paris est tendu. Qui sait comment cela tournera? Les balles ricochent sur les façades, font des bruits de fusées traçantes et des jeunes gens tombent, chemises tachées, regards voilés. On meurt en été dans cette ville qu'on ne verra pas libérée et dans laquelle d'autres plus tard viendront y vivre, se promener, s'asseoir. D'autres, oui, viendront sur les bancs du Luxembourg, à l'ombre de la statue de Verlaine, dans ce jardin paisible. Tant de petits Parisiens ont fait leur premier pas ici. Tant d'enfants ont tenté d'attraper les anneaux en bois du manège, ont poussé les bateaux à voile sur le grand bassin en essayant de ne pas tomber dans l'eau, ni de perdre le précieux bâton. Tant d'entre nous ont vécu ici, libres, légers, s'accoudant peut-être contre ces mêmes murs le long desquels les corps des combattants blessés se laissaient glisser sans force, sentant la vie s'échapper d'eux, trouvant injuste de mourir par une si belle journée, dans une si belle ville, si près de la victoire. Ils sont là, tous, à l'endroit de leur nom gravé dans le marbre, ceux qui nous regardent vivre. Et ils sourient sûrement de ce cadeau qu'ils nous ont fait. C'est peut-être pour cela que je dois les dire, pour qu'ils voient notre présent et sourient de notre liberté. Tant de vie avant nous, tant de tumulte. Et nous faisons ce qu'ils auraient aimé faire, nous faisons ce pourquoi ils se sont battus. Nous nous embrassons sur les bancs publics, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de célébrer la vie, et nous le faisons sans penser à eux. Penser à eux, à cet instant, serait accepter d'être grave, et nous devons rester légers, insouciants. C'est pour cela qu'ils sont morts, légers, insouciant, c'est promis, de génération en génération, dans ces jardins qui ont saigné, légers, insouciants, parce que vous avez gagné et que nous sommes libres, légers, insouciants. Je crois que je suis le veilleur de la ville. Je n'ai rien d'autre à faire que déambuler dans ces rues comme un gardien attentif. Paris veut sa bouche à la fin de mon goût. Trop de vie s'entasse en elle, il faut les dire. Et c'est pour cela que l'homme m'a demandé de le suivre. Et maintenant, partout où je vais, je vois des foules agitées se presser devant moi, comme si les rues en accouchaient.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille.
Chers auditeurs, nous ne sommes qu'au début de cette déambulation. Nous vous invitons à la poursuivre car 1000 vies vous y attendent, 1000 lieux, 1000 morceaux d'histoire, 1000 manières d'être touchés. Nous vous quitterons sur cet autre poème de François Cheng, belle mise en valeur, nous a-t-il semblé, de l'écriture de Laurent Godet. Nous rions, nous trinquons, en nous défilent les blessés, les meurtris, nous leur devons mémoire et vie. Car vivre, c'est savoir que tout instant de vie est rayon d'or sur une mer de ténèbres, c'est savoir dire merci. Les lectures étaient assurées par Anne, Annie et Monique, le montage par Claude Michel. Les deux poèmes étaient extraits de « Enfin le royaume » de François Cheng. Les musiques « À Paris » de Francis Lemarc, « La danse macabre » de Camille Saint-Saëns, « Il est 5 heures » Paris s'éveille, Jacques Dutronc. Au revoir.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission